pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor, chaque semaine sur les Coligaric à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Donc aujourd'hui, on va revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes qui fait toujours l'actualité depuis 4 mois, avec ses occupations de rond-point et ses manifestations traditionnelles du samedi. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les différentes caractéristiques de ce mouvement, ses composantes et en quoi en fait ils éclairent la période actuelle, tant au niveau économique et politique que social. Moi, j'essaierai tout au long de l'émission de venir un peu agrémenter cette analyse avec des exemples locaux, donc de particulièrement de Poitiers, mais un petit peu aussi des alentours. Voilà, donc je propose qu'on commence avec Emma, donc sur quelles sont un peu les caractéristiques, les composantes de ce mouvement, sa naissance et un petit peu son implantation.
Oui, donc le mouvement des Gilets jaunes est apparu en milieu rural et périurbain, donc dans des zones qui se mobilisent peu d'ordinaire et qui sont en pleine déliquescence avec la disparition des lignes de chemin de fer et des services publics. La multiplication des déserts médicaux, la pénurie d'emplois, enfin c'est une situation de plus en plus catastrophique. Dans ces zones, l'automobile est devenue la condition sine qua non pour toutes les activités de la vie quotidienne. Hein. Le travail, l'école, les loisirs de la famille, tout passe par là. Et de ce fait, les dépenses en carburant pèsent lourd sur le budget de nombreux ménages. Et c'est pourquoi l'annonce par le gouvernement à la rentrée d'une nouvelle hausse du gasoil a mis le feu aux poudres dès le 17 novembre avec la première manifestation des samedis qui est devenue traditionnelle là, depuis 4 mois. Alors les Gilets jaunes, ils dénoncent une dégradation de leur pouvoir d'achat, mais plus largement de leurs conditions de travail et même d'existence. Et cette dégradation est liée aux politiques d'austérité et d'aménagement du territoire qui ont été menées depuis 4 décennies par les gouvernements, de droite comme de gauche, on y reviendra. Le profil des Gilets jaunes a surpris pas mal, d'une part parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement et qu'elles sont plus visibles et dynamiques que dans pas mal d'autres mobilisations, hormis les manifestations écolo, où en général la proportion de femmes est plus importante qu'ailleurs. Et d'autre part, ça a surpris parce que le nombre de Gilets jaunes n'avait en fait jusque-là pas participé à des actions militantes, et ça, quel que soit leur âge. On nous dit que la plupart refusent de se positionner selon l'axe droite-gauche. Et d'après une enquête sociologique qui a été faite par Chloé Le Prince et qui est citée sur France Culture le 11 décembre, sur 166 personnes interrogées, 47% se mobilisaient pour la première fois et 44% n'avaient jamais fait grève. Mais en fait, c'est pas très différent du reste de la société, puisque d'après les sondages, la moitié de la population française s'intéresse peu, assez peu ou pas du tout à la politique.
Oui, et aussi je voulais rajouter qu'il y a aussi beaucoup de retraités, ce qui a notamment permis de tenir autant les ronds-points, notamment en semaine, en fait. Donc, je trouvais ça important de le signaler aussi. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la composition sociale des Gilets jaunes, elle est aussi originale qu'on a pu le dire ? Je pense notamment au fait qu'au début du mouvement, on a beaucoup entendu que ça serait une espèce de mélange paradoxal entre à la fois des petits patrons, donc commerçants et artisans, et des prolétaires. Et on a aussi entendu dire Des choses comme, en fait, c'est juste des beaufs en 4x4 qui sont intéressés que par le prix du gasoil. Donc, peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus.
Mais en fait, la classe politique et les médias ont comparé les Gilets jaunes au mouvement Poujade. Il y a eu plein d'articles de très chiadés, on va dire, qui disaient que c'était du populisme. On y a vu l'émanation de l'extrême droite. Enfin, il y a eu énormément d'approches critiques. Les syndicats également ont critiqué ce mouvement pour son interclassisme. Ils se méfient toujours des mobilisations qu'ils ne contrôlent pas. Donc, c'est pas très étonnant. Mais en fait, l'abandon par le gouvernement de l'augmentation de la taxe carbone n'a pas calmé les Gilets jaunes. Donc, ils et elles ne correspondent pas à cette image de bof anti-écolo qu'on en donnait d'eux et d'elles. Et de plus, avec les blocages des ronds-points et les fêtes de fin d'année, les commerçants sont en général devenus hostiles au mouvement. Donc, bon, ils sont plutôt hors de ce mouvement.
Oui, et en plus, sur cette image anti-écolo, c'est important de rappeler que la plupart des collectifs Gilets jaunes, donc notamment celui de Poitiers, ont toujours appelé à rejoindre les marches sur le climat. Hein. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Il y a même eu une action estampillée écolo où il s'agissait de ramasser des déchets le long de la rocade. Voilà. D'ailleurs, ça énerve aussi pas mal de gilets jaunes. Et nous les premières, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est partie prenante de ce mouvement. Je trouve ça important de le rappeler. En fait, des gilets jaunes qui s'énervent et s'exaspèrent un petit peu de voir que, effectivement, il y a un appel à rejoindre ce type de manifestation, mais que le retour n'est pas forcément vrai, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et aussi, je voulais rajouter par rapport aux commerçants. Clairement, les commerçants ne sont pas du tout du côté des gilets jaunes. On l'a bien vu à Poitiers-Sud, notamment, où il y a régulièrement le rond-point qui est bloqué, et en fait il y a même un jour où quasiment tous les commerçants de la galerie de Poitiers-Sud en fait se sont pointés, avaient convoqué la presse et s'en est suivi des discussions un peu compliquées entre gilets jaunes et commerçants. Donc clairement les commerçants sont pas de notre côté, et les gilets jaunes qui ont pu ou qui peuvent encore avoir des discours un peu ambigus par rapport à ça aussi, sur il y aurait des bons commerçants, des mauvais commerçants, des grands groupes à boycotter, d'autres non, etc. Bah en fait, de la même manière, on voit que bah en fait non, il y a les grands groupes, ils sont attaqués à travers certaines revendications, mais aussi au niveau des actions. Je pense à Châtellerault, où il y a eu une manif où le Leclerc a été envahi, et on entendait le principal slogan qui était scandé, c'était anti-capitaliste. Donc voilà, ça illustre bien ça quand même.
Et dans les milieux militants d'extrême gauche, au début, on a aussi beaucoup débattu sur les gilets jaunes pour déterminer si leur mouvement était politiquement correct. Donc en fait, s'il fallait le défendre, le soutenir et participer. Une partie des militants d'extrême gauche et des libertaires s'est investi dedans assez vite. Et des sections syndicales aussi ont pris des initiatives pour favoriser la convergence des luttes sociales, parce qu'on s'est rapidement aperçu que la base des Gilets jaunes était très prolétarienne. En majorité, ce sont des personnes en activité, mais qui ont un revenu inférieur au revenu médian, qui est de 2 500 € pour un couple. On trouve beaucoup d'ouvriers, d'employés, de retraités, comme tu as dit, de petits artisans, d'infirmiers, de professeurs des écoles. Et ce sont des personnes qui appartiennent à la fraction inférieure des classes moyennes, ou encore à des milieux encore plus démunis en étant chômeurs ou précaires. Et très vite, les Gilets jaunes ont avancé des revendications classiquement sociales, qui sont liées au pouvoir d'achat, en demandant une hausse des bas salaires, des petites pensions, des minima sociaux. Donc en fait, en demandant un meilleur partage des richesses.
Ouais. Et pour terminer là aussi sur qui compose ce mouvement, je voulais revenir sur l'extrême droite, parce que du coup, on peut se demander si à quel point elle a joué un rôle en fait dans la mobilisation des Gilets jaunes. Bon, alors déjà une Bon, clairement, elle est très très présente, elle l'a été, elle est encore sur les réseaux sociaux. Après, Après, ça va dépendre aussi beaucoup des endroits et des localités. Par exemple, à certains endroits où de toute façon l'extrême droite est déjà très présente sur le terrain, elle est présente de fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Je pense à des villes comme Lyon ou Strasbourg. Mais à d'autres, elle s'est fait aussi carrément virer, par exemple, comme à Bordeaux. Donc finalement... voilà, c'est compliqué d'avoir aussi une vue d'ensemble. Moi, je sais qu'à Poitiers, elle est de moins en moins présente, assez peu. Alors, il y a toujours la présence de symboles qui sont clairement estampillés de droite, comme la Marseillaise et les drapeaux tricolores. Mais en tout cas, dans les AG, je pense que non. On peut dire qu'elle est peu présente, ou en tout cas, elle a pas tellement... manière d'exister ou de manière anecdotique, quoi.
Oui, si je peux me permettre d'intervenir en fait sur la question effectivement de la diabolisation qu'il y a pu avoir sur la présence de l'extrême droite dans le mouvement, qui est réel, malheureusement, on peut pas le nier. C'est en fait Pascal Bruckner, un penseur dit nouveau, enfin qui fait partie du mouvement des nouveaux philosophes, qui en fait lundi soir, lors du dernier grand débat organisé par Emmanuel Macron avec les intellectuels, les grands intellectuels de France, donc lors de l'ouverture de ce débat, ce monsieur a déclaré clairement qu'il y avait un complexe anarcho-fasciste. Donc là, clairement, lui, en plus, il relie les deux extrêmes qu'on a souvent l'habitude d'associer, donc l'extrême droite et l'extrême gauche, où clairement, lui, il menace, enfin, il dit qu'il lui, il voit un grave danger pour la démocratie telle qu'elle est présente. Donc il y a vraiment effectivement de la part de certains médias, de certaines approches, une diabolisation du mouvement en le qualifiant sans vraiment de distinction que ce sont des gens d'extrême droite, alors que ce n'est pas le cas.
Pas toujours le cas.
Tout à fait, ce n'est pas toujours le cas, ni partout, ni tout le temps.
Sur la question de l'immigration, on nous assure qu'une majorité des Gilets jaunes trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Mais en fait, d'une part, on obtient le même résultat quand on interroge l'ensemble de la population française. Il y a un sondage IFOP qui a été fait pour le JDD le 1er décembre et qui faisait ressortir ça. Et d'autre part, le racisme est largement entretenu en France par la politique de l'État concernant les migrants et les personnes issues de l'immigration africaine dans les banlieues. De même, sur les attitudes sexistes, homophobes, machistes, ou encore sur le chauvinisme, malheureusement, ce ne sont pas l'apanage des Gilets jaunes. On retrouve en fait, chez les Gilets jaunes, on peut dire, une variété d'opinions et des contradictions qui sont fréquentes dans les classes populaires. Bon. Qu'à voir à la CGT ou PC. Voilà. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a une revendication qui émane de l'extrême droite et qui est assez répandue dans leur rang, et c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC.
Oui, le RIC, qui est d'ailleurs aussi repris par la France insoumise. Le RIC, c'est un peu... Ouais, le gouvernement l'a laissé miroiter comme une possibilité. Alors qu'en fait, c'est une récupération de l'État sur une demande de réappropriation de démocratie, et du coup, effectivement, qui touche peut-être les Gilets jaunes qui sont plus sensibles aux arguments citoyennistes. Alors le RIC, il fait pas du tout consensus parmi les Gilets jaunes. À Poitiers, on en parle assez peu, finalement. Et de toute manière, certains gilets jaunes qui peuvent le porter comme revendication, ça ne les empêche pas de participer au mouvement et d'avoir d'autres revendications. Alors ça nous est vendu comme un outil démocratique qui serait là pour corriger une mauvaise gestion étatique. Bon, est-ce qu'on a envie de faire confiance à un outil qui s'inscrirait dans le cadre de cette même démocratie bourgeoise capitaliste qu'on critique? Je ne suis pas sûre. Et puis, de toute façon, voilà, c'est comme tous les autres types de scrutins. À un moment donné, je pense qu'on continue d'y croire malgré toutes les désillusions que ça apporte. Voilà, je ne sais pas si...
Oui, d'autant ouais. Plus que sur la question du RICT, en fait, c'est qui va pouvoir porter ces initiatives dites citoyennes, c'est-à-dire... Est-ce que c'est nous, en tant que citoyens, qui vont pouvoir mener des campagnes pour pouvoir mener... Non. Ça paraît compliqué. Et effectivement, ce sont, une fois de plus, les grandes structures, partis, syndicats, grandes associations qui vont récupérer cette initiative-là. Donc, en fait, la question vraiment de la réappropriation par les individus de cette forme de la politique, elle laisse quand même à désirer au vu des moyens qu'il faut déployer pour pouvoir mettre en œuvre ces référendums. Donc c'est...
Ouais, surtout que ça peut être un biais, comme le grand débat l'a été, enfin, ou a été tenté de l'être, de casser le mouvement et voilà, de le casser, quoi. Et alors surtout qu'en termes de réappropriation de la démocratie, elle se fait déjà du coup à l'intérieur même du mouvement et de son mode d'organisation. Du coup, les Gilets jaunes, donc au départ, se sont organisés sur les réseaux sociaux, donc surtout sur des bases familiales et amicales. Et après, sur l'occupation des ronds-points, en fait, ça s'est fait notamment par affinité politique, mais aussi par affinité stratégique, selon les différents rapports à la police, etc. Mais en fait, assez vite, il y a eu une volonté en fait de se coordonner entre ronds-points. Alors là, je vais surtout parler donc de Poitiers, hein, c'est l'exemple qu'on connaît le mieux nous. Et en fait, avec une organisation d'AG régulière hebdomadaire. Donc là, pour ce qui concerne Poitiers, c'est tous les vendredis à l'auberge de jeunesse à partir de 18h-18h30. Je vous invite même à y aller juste après l'émission. Et en fait, il y a une réelle volonté de s'organiser en démocratie directe, c'est-à-dire que il y a depuis le début, il y a une volonté qu'il n'y ait pas de chef, que les décisions soient prises de manière horizontale. Du coup, il y a un système de commission qui est mis en place, donc la commission action, revendication, communication juridique, etc. Et voilà, bon, évidemment, comme tout mouvement, il y a des limites à ça. Hein, et c'est compliqué qu'il n'y ait pas de leader, de prise de pouvoir. Des fois, les débats avancent lentement. C'est aussi des outils. Et on l'a dit tout à l'heure, les Gilets jaunes sont aussi majoritairement des personnes qu'on peut militer dans leur vie, qui n'ont peut-être même jamais fait grève. Et en fait, la réappropriation de ces outils, elle prend du temps. Et de l'énergie et voilà donc et aussi juste quand même il y a aussi je voulais rajouter il y a une volonté de se coordonner entre groupes donc au niveau de Poitiers des alentours au niveau régional et même il y a eu une assemblée des assemblées à Commercy hein, donc avec des porte-paroles de chaque assemblée qui se sont réunies ensemble et il y en a une autre qui est prévue tout début avril premier week-end d'avril à Saint-Nazaire voilà
oui. Évidemment, il faut que ce mouvement ces gens qui n'ont pas l'habitude de fonctionner d'un point de vue militant et tout ça, s'organise. C'est pas très évident parce que c'est un mouvement très décentralisé. C'est lié à leur vécu, hein, l'ancrage dans certains territoires, mais c'est aussi par choix parce qu'il y a cette peur effectivement d'une récupération politicienne. Chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup de méfiance à juste titre par rapport aux partis, aux syndicats et à l'État. Et c'est pourquoi les chefs Gilets jaunes, là, tous ces gens qui s'autoproclament chefs Gilets jaunes avec l'aide des médias, en fait, ils jouent quasiment aucun rôle et ils sont contestés dès qu'ils ou elles prennent des initiatives, en particulier pour présenter une liste aux élections européennes. Et de ce fait, le gouvernement ne parvient pas à avoir d'interlocuteur avec qui négocier l'arrêt du mouvement, ce qui l'embête bien.
Oui, alors juste pour revenir sur les syndicats, alors il y a clairement une méfiance. Alors les partis sont pas présents et de toute façon il y a une volonté qu'ils soient pas présents aussi de la part des Gilets jaunes.
Pardon, s'ils sont pas présents, c'est à drapeau déployé tout du moins. Peut-être qu'ils sont présents.
Oui, à titre individuel, ouais. Mais en tout cas voilà, il y a pas de comme les Gilets jaunes ont été très clairs là-dessus au départ. De fait, il y a peu de récupération politique de possible et de fait. Et par rapport aux syndicats, donc il y a une même méfiance, mais il y a aussi du coup quand même une présence de certains militants syndicaux, je pense surtout à Sud et à la CNT, mais c'est des militants qui sont très très clairs sur... qui ont des positions très claires par rapport à ce mouvement-là, qui n'ont pas de volonté de se réapproprier, qui font attention à ne pas étouffer les Gilets jaunes par trop de présence syndicale. Du coup, c'est plus pour faire un peu un lien un peu aussi avec le milieu salarié, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Par contre, oui, il y a une méfiance envers la CGT, mais qui est assez justifiée parce que du coup, il y a quand même eu une manif. Donc, au d'abord, à l'initiative des Gilets jaunes, mais qui était repris par les syndicats. Donc, c'était le 5 février, qui a été appelé grève générale ou je ne sais plus trop. Et donc à Poitiers. Il y a quand même eu pas mal de monde. La manif était assez dynamique. Il y avait moitié syndicalistes, moitié gilets jaunes à peu près. Et il y a eu quand même la possibilité d'envahir la mairie. Donc c'était assez sympa. Et après, il y a eu une AG de proposer qui aurait dû être une AG gilets jaunes syndicats avec vraiment l'idée de se converger. Et en fait, assez vite, tout le monde s'est rendu compte que c'était une AG de la CGT avec une tribune de la CGT et que ça va vraiment être compliqué de converger avec eux.
Xenia ? Oui, ouais. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie ambivalence dans le... d'un côté de l'autre, que ce soit du gilet jaune ou des parents des syndicats, c'est qu'il y a une méfiance de la part des gilets jaunes, mais qui en fait, souvent en manif, reprennent des chants syndicaux. Et avec, par exemple, cette arrivée en AG des diatribes contre les syndicats. Mais effectivement, à cette manif-là, il y avait quasiment autant de gilets jaunes que de syndicalistes. Alors, il y avait des vrais gilets jaunes, si je puis dire. Mais est-ce que c'était aussi des syndicalistes qui montraient leur désaccord avec leur syndicat, qui mettaient le gilet jaune et pas le badge? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il y avait une grosse proportion. Et surtout, on a senti l'énorme gêne de la CGT, c'est-à-dire que les gens étaient dans la mairie, la CGT voulait partir, et la CGT ne pouvait pas partir, parce que si elle partait, on sentait clairement, ils sont partis, ils sont revenus, il y avait vraiment une espèce de le cul entre deux chaises, quand on ne savait pas trop où se mettre. Et c'est vrai que c'est une situation relativement inédite.
Et ça ramène bien au troisième trait marquant quand on parle des gilets jaunes, c'est leur pugnacité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de lâcher du tout, et qu'il y a une grande implication des personnes dans leur mouvement, dans notre mouvement, quoi. Cette colère qui anime les gilets jaunes les rend très très déterminés et elles se montrent capables de modifier leurs interventions en fonction de l'actualité. On l'a vu tous ces derniers mois. Il y a eu lors de la marche pour le climat, lors de la grève, journée de grève là dont tu parlais, lancée le 5 février par les syndicats, à la journée internationale des femmes le 8 mars, il y a eu une convergence partielle des cortèges. Et à Paris encore, samedi dernier, il y avait trois manifs, celle des gilets jaunes, la marche du siècle et la marche contre le racisme d'État et les violences policières. Et on a vu des gilets jaunes partout. Il y en a qui ont fait deux ou trois, voire les trois manifs, mais il y en avait en tout cas partout.
Ouais. Oui, et à Poitiers même, il y avait trois propositions de rassemblement ce samedi-là. Donc il y avait un rassemblement pour le droit à manifester, il y avait un rassemblement de DNSI, d'ailleurs nous sommes d'ici, et les Gilets jaunes ont finalement appelé à aller aux deux. Et du coup, en fait, finalement, il y a eu une convergence des trois composantes pour pouvoir manifester ensemble. Et aussi, je pense au fait qu'il y a aussi des actions, donc ils investissent effectivement d'autres secteurs par solidarité. Et je pense notamment aux Blancs, où du coup il y a une lutte depuis un moment déjà contre la fermeture de la maternité, où du coup il y a eu une manif gilet jaune sur ce sujet-là qui était plutôt sympathique. De manière générale, en tout cas, il y a la volonté de quand même un peu de converger, même s'il y a une méfiance des syndicats, et aussi de se coordonner entre régions. Par exemple, à samedi, un appel à aller à La Rochelle. Voilà.
Et donc, effectivement, le nombre de manifestants et manifestantes a baissé par rapport au début du mouvement, les chiffres qui sont rendus publics sont soumis à caution, pour deux raisons. D'abord, ils émanent seulement du gouvernement et ils sont contestés à la fois par les Gilets jaunes et par le syndicat de policiers CGT ou même BFM à certains moments. Et d'autre part, les multiples initiatives des Gilets jaunes qui ont lieu partout ne sont pas comptabilisées. Ce sont uniquement les manifs des villes un peu importantes qui sont prises en compte par l'État. Et encore à Toulouse, hein, où il y a eu plusieurs manifs de suite, où il y avait plus de 10 000 personnes, la préfecture a refusé ensuite, pendant des semaines, de donner des chiffres. Elle parlait juste de milliers de manifestants. Et il a fallu attendre le 9 mars, où comme il y avait moins de monde, elle a annoncé 3 à 4 000 personnes. Et samedi dernier à Paris, pareil, la seule manif qui a été évaluée, c'est celle qui était estampillée gilet jaune, alors que comme j'ai dit, il y avait des gilets jaunes partout.
Oui, mais effectivement, c'est un peu compliqué d'avoir des chiffres aussi au niveau local parce que, en fait, du coup, le gouvernement, les médias, ils ne comptabilisent pas toutes les manifestations qui se passent aussi sur des plus petits villages et sur en fait, toute la mobilisation qu'il y a autour des ronds-points. Et bah, par exemple, par chez nous, bah, en fait, en dehors de Poitiers-Châtellerault, bah, en fait, il y a aussi des collectifs à Loudun, à Chauvigny, à Saint-Savin, Lussac. Et dans les Deux-Sèvres aussi, Pampe, au-delà de Niort et Parthenay, bah, il y a Thouars, Bressuire, Mel, Limalonge même, etc. Et d'ailleurs, il y a même une copine qui nous a transmis ce petit témoignage où elle dit qu'en fait, fin décembre, un samedi de décembre, où en fait, elle constate que les médias notent un taux de participation particulièrement bas. Elle est surprise de voir que sur un tout petit rond-point dans un village, en fait, bah, quand elle y va, il y a 50 personnes et qu'il y a un roulement assez impressionnant. Donc, elle a du mal à estimer sur la journée, mais ça représente du monde quand même pour une zone comme celle-ci. Donc, en fait, les gens, ils sont là, ils tractent, il y a des pétitions, il y a une tente et des toilettes déjà installées, il y a du café. Donc voilà, finalement, c'est pas les chiffres sont pas représentatifs de ce qui se passe, localement, quoi. Oui, je peux peut-être terminer sur le témoignage où elle raconte aussi, par contre, que donc les gendarmes sont présents aussi à ce moment-là et qu'en fait les rapports avec les autorités sont toujours un peu ambigus parce que par exemple là elle note que il y a des gendarmes qui veulent prendre un café, il y a une première femme qui refuse, mais que finalement les autres lui disent si et donc là, ça va peut-être nous permettre de parler un peu du rapport à la police et la répression.
Si voilà, oui, parce que dans les points caractéristiques donc, des Gilets jaunes, par rapport à ce mouvement, c'est la violence de la répression qui a été exercée par le gouvernement contre les Gilets jaunes qui est tout à fait remarquable par sa force. Parce qu'au départ, le gouvernement a laissé occuper les ronds-points. Hein, et il a cherché des interlocuteurs pour négocier parce que les gilets jaunes pouvaient être des électeurs potentiels. Et puis aussi parce que ce mouvement était très populaire. Hein, les sondages le disaient et tout. Et maintenant encore, le nombre de gilets jaunes qui sont mis à l'avant des véhicules dans certaines régions montre que ce mouvement reste très populaire. Hein, contrairement à tout ce que la presse et tout ça voudrait dire. Ça reste très populaire. Mais ensuite, le gouvernement a tenté par de multiples moyens de casser ce mouvement. Hein, il l'a dénigré en disant que c'était un mouvement réac, fasciste, même antisémite quand Finkielkraut s'est fait insulter à la manif parisienne du 16 février. Le gouvernement a aussi dénoncé la casse des commerces, la dégradation de l'économie en général. Il a tenté la diversion avec le grand débat. Il a tenté la division entre les bons manifestants, qui seraient les gilets jaunes, et les casseurs. Et la dissociation n'a pas marché.
Bah non, même plus que ça, le rapport à la violence en fait, a vachement changé. Parce qu'au début, il y avait effectivement cette dissociation casseurs, où les gens disent « nous, on n'est pas des casseurs ». Et un peu un rapport à la volonté, en tout cas, de rester dans certaines formes de légalité. Et en fait, ça a vite volé en éclats, déjà par expérience de la répression, et puis par une colère qui n'est pas entendue et qui s'exprime, quoi. Du coup, on se retrouve avec des témoignages d'une personne, par exemple, qui n'a jamais tellement milité de sa vie, puis certainement qui a fait partie des personnes qui ont été les premières à critiquer les grèves, les blocages qu'il y a pu y avoir auparavant, et qui dit ouais, finalement, l'émeute, on y prend goût. Et que, en fait, assez vite, il y a un côté assez assumé de cette casse et de cette violence. Et il y a aussi un peu toujours cette idée d'avoir un rapport de force. Bon, qui est un peu toujours ambigu aussi, parce qu'il y a toujours une histoire un peu d'avoir une forme de légitimité par rapport aux forces de l'ordre. Ça m'évoque une manif à Poitiers qui a été un peu compliquée. On n'était pas très nombreux, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers, et que du coup, ils nous ont vraiment empêchés de manifester. On a dû rester sur le trottoir, et effectivement, c'est humiliant et c'est pas très agréable à vivre. On manifeste quand même. Et je pense qu'il y a, pour beaucoup de gens, il y avait un peu ce propos de dire on est nul, on n'est pas efficace, les flics se moquent de nous, on se moque d'eux. Au final, on s'en fiche, mais voilà, il y a toujours un peu ce rapport un peu bizarre. Mais du coup, avec une répression très très forte, et je voulais juste, peut-être avant que Daria tu t'interviennes sur la répression, je voulais juste un peu parler du 9 mars, donc la dernière grosse manif à Poitiers. Du coup, la préfecture avait posé une interdiction de manifester. Il y avait une très très forte présence policière avec donc des flics en civil, des baqueux, mais aussi des CRS qui avaient complètement bloqué en fait la place du marché. Du coup, toutes les personnes qui voulaient accéder à la place, en plus c'est un samedi, donc c'est un jour de marché, il y a beaucoup de monde, donc se faisaient contrôler et fouiller. Donc les flics ils ont fouillé le parking souterrain, ils ont même fouillé l'église et la brigade de la BAC faisait le tour des cafés pour contrôler un peu tout le monde, vérifier le contenu des sacs. Voilà, donc c'était assez impressionnant et du coup voilà une manif complètement cadenassée avec vraiment une difficulté à pouvoir mettre en place action ou autre chose quoi.
Tout à fait, parce que sur cette question du volet répressif du mouvement, c'est vrai qu'il y a quand même assez longtemps qu'en France, on n'avait pas vu France métropolitaine, tout du moins, un tel déchaînement de répression. On va quand même indiquer quand même que Amnesty International a commandé une enquête, un rapport. L'ONU a quand même demandé une enquête. Et quand même, ironie du sort, la Turquie et l'Iran ont quand même vivement houspillé la France pour son traitement des droits de l'homme. Bon, bien sûr, c'est probablement un pied de nez de la part de ces régimes à la France. Néanmoins, ça donne un petit peu de l'écho que ça a pu avoir au niveau international. Et effectivement, la répression a été vraiment multiforme. Tout d'abord, en fait, par la mobilisation des effectifs de police, puisqu'on a eu vraiment des effectifs mobilisés à plein temps, à tel point, en fait, que ceux-ci, en janvier, ont lancé un mouvement de grève. Enfin non, ils n'ont même pas lancé un mouvement, ils ont menacé de lancer un mouvement, et ils ont obtenu une prime. Certains luttent depuis très longtemps et n'ont malheureusement pas obtenu grand-chose jusque-là. Bon, à chaque samedi, en fait, c'est tout le territoire français qui est quadrillé par les forces de l'ordre. Comme tu l'as évoqué, Cynthia, la manif du 9 mars a été entièrement bouclée. On peut même dire, malheureusement, que c'est la police qui a dirigé la manifestation, puisque c'était vraiment, là vous partez, là vous faites ci, là vous faites ça. Par exemple, pour ce week-end, on a sur 60 compagnies de CRS, on a 58 qui sont mobilisées, sans compter bien sûr tous les gendarmes mobiles, policiers, nationaux, tous ces corps de contrôle et de répression qui sont mobilisés. Ça arrive parfois à Poitiers qu'il y ait des contrôleurs de bus qui soient mobilisés pour effectuer des rôles d'observateurs. On a aussi une nouveauté relativement inquiétante tout de même pour ce samedi, à savoir la mobilisation de l'opération Sentinelle, donc des militaires qui sont déployés pour sécuriser les lieux publics, sachant que leur rôle va être de libérer des forces de police habituellement dévolues à ce rôle-là pour que ces unités de police puissent aller faire du maintien de l'ordre, sachant que le gouverneur militaire de Paris a annoncé que les soldats avaient l'ordre de tirer au cas où il y aurait une menace envers leur vie ou la vie des personnes qui le protègent. Mais celui-ci a précisé que les ordres sont suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude à avoir. Bon, parfait, nous voilà rassurés alors, puisque les ordres sont clairs. Au niveau du panel répressif, on a pu constater le retour, par exemple, ce qu'on appelle les voltigeurs, donc des brigades de motocyclistes, de policiers qui sont là pour vraiment chasser les manifestants. On les a vus notamment à Toulouse ou à Paris, et certains sont équipés de flashballs pour pouvoir tirer sur les manifestants, sachant que ces unités de police avaient disparu en 86 suite à la mort de Malik Ossekine. Qui avait été tabassé dans une manif. À Paris, on a pu voir le retour des blindés de la gendarmerie qui d'habitude sont très souvent déployés en fait dans les territoires ultramarins français pour rétablir l'ordre néocolonial. On les voit assez peu en métropole, donc ça montre quand même une certaine montée de la violence. On a pu aussi avoir, ça c'est, les informations sont assez difficiles à trouver dessus, mais on, par exemple il y aurait eu la BRI qui serait intervenue dans le cadre des manifs. Donc la BRI, c'est des unités de police qui sont spécialisées dans les interventions violentes, bien souvent antiterrorisme, grand banditisme. Donc ils ont été déployés dans le cadre de ces manifs. Il y a eu tout un tas de nouveaux armements, de nouveaux équipements qu'on a pu voir sur le terrain. Il y a aussi donc la question des blessures qui ont été très 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 nombreuses quand même récemment, puisque l'utilisation massive de flashball et de LBD, mais aussi de grenades Gli F4, donc qui sont des grenades explosives, ont entraîné des blessures très graves mutilation, éborgnement, enfin on est vraiment sur des blessures assez, assez graves. Au 30 janvier, Libération notée 144 blessés graves, 14 éborgnés. Bien sûr, ces comptes rendus en fait ne prennent en compte que les blessés pris en charge officiellement par les services de santé. Donc en fait, on ne prend pas en compte toutes les autres personnes qui ont pu être matraquées ou même simplement gazées, puisque le fait de recevoir une grenade lacrymogène à côté de soi, est-ce que c'est pas le fait d'être blessé, puisqu'il y a déjà une incommodation qui est créé. Au 13 février, il y avait 174 enquêtes ouvertes auprès de l'IGPN pour des questions de violence policière, donc ce qui laisse quand même à... ce qui questionne sur la question de l'utilisation de la force par la police. Il y a tout de même une femme aussi qui est morte à Marseille suite en fait à un choc opératoire dû à l'irruption d'un palais dans son balcon, mais le parquet de Marseille a décidé d'ouvrir une enquête sur ça. Sur la question judiciaire, alors c'est assez compliqué, mais pour l'instant, en décembre, on était déjà à plus de 3300 arrestations. J'ai pas les chiffres plus récents, malheureusement, mais c'est très important. Sur la question légale, bah, y a eu la loi anti-casseurs qui a été passée, qui est en fait une prolongation un petit peu de la loi antiterroriste qui a été constitutionnalisée, donc avec des interdictions de manifester. Sachant que là, c'est pas les juges qui prennent les décisions, mais c'est vraiment les préfets. Donc on a vraiment un déploiement tout azimut de la répression pour faire taire ce mouvement. À Poitiers, pour sûr, pour ce que j'ai pu en lire dans la presse locale, on a au moins 26 arrestations qui ont donné lieu pour sûr à un enfermement de 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, une personne qui a écopé une assignation à résidence les jours de manif, tout un tas d'amendes, de comparutions immédiates, souvent pour des faits quand même relativement mineurs, qui sont outrage, rébellion. On a aussi des banderoles qui ont été confisquées sur certaines manifestations. Donc on a vraiment un déploiement tout azimut de la répression. Cet élément, enfin là sur le point de la répression, on va boucler puisqu'on va devoir passer à autre chose. Et on va passer à un petit extrait musical, on ne passera pas la chanson en entier. C'est This is La Peste, Grande Colère, une chanson qui ne manquera pas de vous rappeler l'actualité.
Je suis en grande colère. Je suis en grande colère. Les impôts, les huissiers, tous vos confrères. Je suis en grande colère. Les contrôleurs qui se cachent dans le RER. Je suis en grande colère. Tes prix en faute, va falloir que tu payes. Je suis en grande colère. Les radars placés pour se faire de l'oseille. Je suis en grande colère. Les radios, les émissions de merde. Je suis en grande colère. Y'a un fou par jour dans les faits divers. Qui balance pour une promotion. J'suis en grande colère. À la télé, la séquence émotion. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère.
Oui, nous voilà de retour. Et donc avec Emma, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que nous dit le mouvement des Gilets jaunes sur la période, s'il te plaît?
Bon, ben, on peut dire que ce mouvement a surpris tout le monde, hein, de l'État à la classe politique, des experts médiatiques aux syndicats, et qui restera sans doute dans l'histoire comme un événement marquant un changement de période. Parce que ce qui est dénoncé, c'est le mépris de classe qui est montré par les élites politiques, médiatiques ou syndicales, de droite comme de gauche, à l'égard des gens d'en bas. Et là, on voit des pauvres qui se battent pour leur dignité, pour la justice sociale et fiscale, pour une meilleure répartition des richesses et plus de démocratie directe.
Oui, et les slogans des manifs reflètent bien cet état d'esprit. Juste pour donner quelques exemples, on a pu lire « Ma pancarte est trop petite devant tant d'injustices », on entend régulièrement « Contre leur sale business pour le partage des richesses ». Et même au niveau des âgés et des débats, plus on discute et plus il y a une remise en cause de l'exploitation. Donc on va bien au-delà de ce qui était dit au départ.
Voilà. On peut aussi dire que cette mobilisation découle d'un ascenseur social en panne, parce qu'elle reflète vraiment l'incertitude des classes populaires sur leur avenir et celui de leurs enfants. Et on l'a vu fin 2018, quand il y a eu la mobilisation de la jeunesse contre Parcoursup, en même temps que les manifestations Gilets jaunes. Sans avoir l'ampleur du mouvement anti-CPE de 2006, cette mobilisation a été importante. Et surtout, ce qui était remarquable, c'était qu'elle est venue des LEP, hein, des lycées d'enseignement professionnel, et pas seulement des lycées généralistes, comme c'est souvent le cas. Et les LEP, c'est les enfants des Gilets jaunes, en fait, hein. Et l'État a été particulièrement répressif contre ce mouvement. On se rappelle l'épisode de Mantes-la-Jolie le 7 décembre où une centaine de lycéens ont été interpellés et forcés de rester pendant des heures à genoux, les mains derrière la tête. Ouais. Hein.
Alors, peut-être maintenant, Emma, est-ce que tu peux... Alors, on peut se poser la question de pourquoi le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché à ce moment-là. Et aussi, un truc qui nous interpelle, c'est en fait, pourquoi il est particulièrement dirigé contre l'État et ses gouvernants plutôt que contre le patronat, en fait.
En fait, c'est surtout l'État qui est visé parce qu'il est tenu pour largement responsable de la situation économique et sociale. Et en plus, on peut dire que cette dénonciation est personnalisée parce que le slogan « Macron démission », il revient absolument tout le temps. Hein, Macron est considéré, à juste titre, on pourrait dire, comme illégitime puisqu'il n'a obtenu que 18% de voix au premier tour de la présidentielle et il a été élu au second tour parce qu'il avait Marine Le Pen comme adversaire. Hein. Donc l'État, en fait, il a longtemps été vu en France, en particulier dans l'électorat de gauche, comme le défenseur du service public, c'est-à-dire des services et équipements collectifs dont il a été le maître d'œuvre et qui ont été financés sur fonds publics. Beaucoup attendaient de l'État donc qu'il défende les classes populaires contre les menées du patronat, ou du moins qu'il soit un agent neutre dans le système capitaliste. Mais c'est évidemment impossible, parce que les institutions étatiques, elles sont partout dans le monde, des instruments actifs au service du capitalisme. L'État français l'a particulièrement démontré ces dernières décennies, puisque, quelle que soit leur couleur politique, les gouvernements successifs ont organisé le délitement des services publics au profit d'intérêts privés, en même temps que les taxes pleuvaient sur la population et que les revenus diminuaient pour les moins riches.
Oui. Oui. Ouais, ah oui, sur le. Oui, il y avait des exemples de pancartes où, par exemple, il y en a une, c'était « Quand tout sera privé, on sera privé de tout ».
Oui, j'en dis plus. C'est toujours sur la privatisation que la revendication revient contre la privatisation. Il faut rappeler que la gauche, elle a été au pouvoir sous les deux mandats de Mitterrand, d'abord seule, hein, de 80 à 86, puis ensuite dans des gouvernements de cohabitation avec Chirac et puis Balladur, 86-95. Et ensuite, il y a eu le gouvernement Jospin de la gauche plurielle, 97-2002. Et si on dresse le bilan de la gauche pendant ces périodes, on peut faire au moins quatre remarques. D'abord, les gouvernements dits socialistes ont appliqué donc des politiques néolibérales par rapport aux entreprises comme par rapport aux services publics. On a vu des restructurations industrielles avec des délocalisations, l'assouplissement des conditions juridiques d'embauche et de licenciement, le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage, une aggravation de la hiérarchie salariale et de l'inégalité entre les rémunérations du travail salarié et celles du capital. Dès Mitterrand, hein, dès les mandats de Mitterrand, il y a eu l'instauration d'un forfait hospitalier, les premiers déremboursements de médicaments, l'allongement de la durée de cotisation retraite, la réduction du niveau des pensions versées. Bon. De plus, pendant que l'État effectuait des coupes dans les dépenses publiques et qu'il augmentait les prélèvements obligatoires, il y a divers instruments permettant d'accroître les profits capitalistes qui ont été mis en avant pour compenser, on disait, les défaillances du service public. On a vu des assurances, des cliniques, des établissements scolaires, des compagnies de transport privés se développer sur le dos de l'assurance maladie, des hôpitaux, de l'enseignement, des transports du secteur public. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, au cours de ces mêmes années, on a assisté à un délitement des forces militantes du PC et de la CGT, à la fois parce que les bastions ouvriers disparaissaient, mais aussi et surtout parce que le gouvernement étant de gauche, le PC et la CGT ne voulaient pas combattre ou même critiquer franchement sa politique. On y allait mollement. Et les classes populaires ne leur ont pas pardonné. L'état de leurs troupes le montre bien. Troisième remarque, les centrales syndicales qui sont surtout représentées en fait dans les grandes entreprises et dans les villes, elles ont joué à fond le rôle de partenaires sociaux avec le patronat. Alors que les contrats précaires n'ont pas cessé de se multiplier, ces corps intermédiaires, comme on les appelle maintenant, préfèrent en général soutenir dans les plans sociaux les emplois garantis au détriment des précaires quand il y a des plans sociaux. Et enfin, on peut dire que le PS au pouvoir s'est occupé, rappelez, il s'est occupé de sujets sociétaux, hein, la parité homme-femme, le mariage pour les homos, au détriment de la question sociale, pour la faire oublier. La mobilisation en 2016 contre la loi travail et le mouvement Nuit debout, qui ont largement été le fait de l'électorat traditionnel de la gauche, ils portaient déjà cette critique à l'égard de la politique du PS. Et le PS l'a payé sur le plan électoral.
Tout à fait. Donc on peut voir que le mouvement n'est pas de nulle part, qu'il y a un terreau de plusieurs années, plusieurs décennies même. Et donc ce point va nous permettre de faire une autre petite pause musicale. Nous allons donc écouter « Toi le premier de cordée », une chanson de Situation composée par une anonyme.
Toi le premier de cordée, quand on bloque c'est pour toi, nous les derniers de cordée, on se passerait bien de toi. L'Élysée ne t'en fait pas, ça coûtera moins cher sans toi, tu ferais bien de nous lâcher ou on pourrait t'étrangler. On a très envie d'un nouvel an sans toi. C'est pas compliqué de comprendre ça. À quoi bon rester si tu es dégoûté par tout ce qui ne te ressemble pas? On ne te retiendra pas. Toi, le premier de cordée, quand on bloque, c'est pour toi, nous les derniers.
Donc là, vous avez eu l'occasion d'entendre donc un extrait de « Toi, le premier de cordée », chanson que vous pourrez retrouver en entier sur Jaune, nos blogs, avec d'autres chansons et d'autres informations sur le mouvement Gilets jaunes. Et cette pause musicale nous permet d'enchaîner sur la troisième partie de ce sujet, à savoir « Que peut-il arriver demain ?»
Ben, vu ce qui a été décrit précédemment, là, de larges fractions de très précarisées du prolétariat sont à présent ignorées par les partis et syndicats dits de gauche. Hein, elles sont devenues invisibles pour eux, géographiquement déjà. De plus, depuis le début du nouveau millénaire, l'État a accentué et accéléré la casse des équipements et des services collectifs. Et il l'a fait particulièrement parce qu'il a lui-même aggravé la détérioration des finances publiques, notamment en allégeant les impôts et les cotisations sociales au profit des plus riches et en pratiquant un sauvetage massif du capital financier en faillite ou sur le point de l'être en 2007-2008 quand il y a eu la crise des subprimes. Du coup, aujourd'hui, la priorité pour Macron, en dehors de la réforme du Code du travail, c'est la maîtrise de l'endettement public. Et sur cette base, son grand débat ne peut être que bidon. D'ailleurs, personne n'y croit. En fait, l'État ne changera rien au SMIC, il ne l'améliorera pas, au CICE, hein, soit environ 40 milliards d'aides aux patrons. L'État ne rétablira pas l'ISF, il continuera à vouloir allonger l'âge de départ à la retraite. On peut s'attendre à des mesures gouvernementales minimes, genre sur la limitation de vitesse à 80 km/h ou la réduction du nombre de députés. Bon. Mais la taxe sur les carburants n'est pas supprimée, hein, il faut le rappeler. C'est juste sa hausse pour cette année. Il y a des augmentations de tarifs qui sont annoncées concernant les autoroutes, l'électricité, les assurances, les mutuelles, etc. Donc le pouvoir d'achat va encore baisser. Et puis le gouvernement poursuit le rythme de ses réformes. Hein. Il y a les privatisations, on voit avec Aéroports de Paris, la Française des Jeux et tout ça. Dans l'éducation, après Parcoursup et la réforme des lycées et du bac, maintenant dans le primaire, c'est l'école de la confiance. Ce qui est au programme dans la fonction publique, c'est des suppressions de postes, les salaires au mérite, le recours accru aux vacataires. L'État cherche aussi à faire des économies sur les allocations chômage. Enfin, ça n'arrête pas. En face, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui revendique à la fois une amélioration des bas revenus et le maintien des équipements et des services publics indispensables à leur survie. Et les ronds-points, en fait, ont été de formidables lieux de politisation, comme le sont les entreprises quand il y a des mouvements de grève ou les rues quand il y a des manifestations. Les Gilets jaunes ont noué de forts liens de solidarité lors des blocages et grâce aux assemblées générales aussi maintenant. Du coup, même si ce mouvement s'arrête, il laissera des profondes traces dans la société. Des générations militantes vont suivre.
Tout à fait. Sur la question de ces générations militantes et de l'auto-formation, la question est que ces gens en fait ont extrêmement rapidement développé en fait un habitus militant, mais que c'est assez inespéré. Peut-être que de la part de certains mouvements de gauche, ça peut énerver dans le sens où ces gens se battent depuis des années sur ces bases-là, des questions salariales et tout, mais qu'ils n'ont jamais réussi à ni vraiment obtenir de claires victoires depuis longtemps, et que là en fait il y a cette mobilisation, qui est cette ampleur, qui n'a pas encore gagné, mais en tout cas sur la question de l'auto-formation militante sur le terrain, c'est une preuve que les Français ne sont pas si dépolitisés que ça, ce qu'on veut bien le dire, et que le terrain fait politique.
Ouais, et on le voit bien avec les Gilets jaunes, ils ont compris plusieurs choses, hein. D'abord que travailler ne garantit pas contre la précarité. De même qu'étudier ne donnera pas forcément un bon métier ou même juste un emploi à leurs enfants. Ils ont compris que la dégradation des services publics, c'est un choix politique des décideurs pour faciliter le transfert au privé des activités les plus lucratives du secteur public, à savoir la santé et les transports. Ils ont compris que dans cette société qui est qualifiée de très individualiste, la solidarité est possible et nécessaire et que l'établissement d'un rapport de force est primordial pour changer le cours des choses. Et enfin, ce mouvement a permis à beaucoup de rompre l'isolement qu'elles subissaient. Et il a mis au centre du débat la question sociale, alors qu'on nous harcèle depuis des années avec les questions identitaires ou communautaires.
Ouais. Ouais, et pour finir peut-être du coup sur cette émission, je me demande comment faire de chaque jour un samedi pour suivre.
Voilà. C'est sûr que c'est pas gagné parce que les Gilets jaunes ont affaire à forte partie. Hein. Elles sont boycottées et calomniées par les médias. L'État met en avant les dégâts économiques, les pertes financières causées par le mouvement avec la chute du tourisme, la dégradation des radars et autres. Donc à l'approche des européennes et de la présidentielle qui se profile bientôt, il y a deux risques si le mouvement retombe. D'une part que l'extrême droite tire les marrons du feu, d'autre part que ce soit Macron qui tire les marrons par refus de l'extrême droite. Alors comment on peut éviter à la fois la peste et le choléra alors que les médias taisent autant qu'ils le peuvent le taux d'abstention croissant, hein ? Il faut évidemment dépasser le terrain de l'antirépression, continuer de refuser que la colère sociale soit recyclée dans la participation aux élections. Il faut continuer de dénoncer le grand débat et toutes les tentatives de récupération de la révolte de cette révolte populaire. Et surtout, vous continuez à se battre contre cette société qui est profondément inégalitaire.
Et tout à fait. D'ailleurs, ce qui est assez assez remarquable, en fait, c'est que Macron, depuis le début de son quinquennat, tente de gouverner, en fait, sans les 10 corps intermédiaires qu'on a cités tout à l'heure, donc partis, syndicats, associations. En fait, il tient à gouverner sans filtre, avec le peuple, ce qui d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu populiste, lui qui dénonce tant les populistes. Mais surtout, c'est que là, il a face à lui une révolte sans filtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de direction, et que au final, il a effectivement une révolte sans corps intermédiaire. Et que là aussi où c'est intéressant, c'est que ça, on nous dit depuis très longtemps que la lutte des classes est morte depuis peut-être depuis la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'URSS pour certains. Mais en tout cas, on a, je crois, une des preuves en fait que non, la lutte des classes n'est pas morte et qu'elle est toujours toujours bien vivante.
Oui, oui. Et si en conclusion, on peut dire que les Gilets jaunes, ils ont le mérite d'avoir vouloir inverser la donne dans une société où les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Hein. C'est parce que c'est un enjeu qui concerne la majorité de la population. Et maintenant, on voit dans les manifs écolos, féministes, syndicales, antiracistes de ces derniers mois que tout le monde est obligé de prendre en compte la question sociale qui a été remise en avant par les Gilets jaunes. Et donc de l'intégrer en bonne place dans les revendications. Ça se voit sur les banderoles, dans les revendications générales. Et ça, c'est un bon point.
Eh bien, merci pour...
Donc, effectivement, merci. C'était le retour direct là pour vous dire que cette émission vient évidemment, vous avez bien compris, de Poitiers. L'émission s'appelle Fracture. C'était leur première fracture. On l'a reprise puisqu'ils faisaient tout de même un premier bilan du mouvement des Gilets jaunes actuel, même s'il n'est pas terminé, loin de là, eh bien, ça permettait de mettre un petit peu sur la table un certain nombre de données. Alors, concernant cette émission, elle date un peu de 3 semaines, je crois, peut-être même pas, mais néanmoins, il y a des choses à ajouter. La première chose qui est peu importante au niveau de la loi anti-casseurs, il y a eu censure, comme vous le savez, du Conseil constitutionnel, qui a censuré eh bien l'autorité administrative qui ne pourra plus prononcer des interdictions de manifester sur tout le territoire national pendant un mois à l'encontre d'individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Là, je cite évidemment, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais attention, c'est pas le principe qui a été censuré, c'est le fait que la disposition qui était donnée par le pouvoir, eh bien, était à revoir. Il a été flou, a été jugé flou, et il semble bien que plus tard, dans quelques mois, voire une paire d'années, ça va revenir à l'ordre du jour dans d'autres termes, hein, puisque faut pas se faire d'illusions sur le Conseil constitutionnel et la portée que ça peut avoir. Dernier point important, et on va peut-être terminer là-dessus, c'est le fait que ce week-end, il y avait l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire, qui a un certain nombre de textes qui ont été décidés. Je vais vous en parler. Il y a eu un appel qui va être soumis au vote par les assemblées locales. Cet appel, eh bien, je vais simplement vous dire ce qu'il revendique. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, des services publics pour toutes et tous. Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'était un extrait donc de cet appel que vous pouvez retrouver sur Mediapart, que vous pouvez retrouver aussi sur Reporter en entier. Bon voilà, alors cet appel d'ailleurs à Saint-Nazaire, il y avait quand même plus de 200 délégations présentes. Il y avait 700 à 800 personnes gilets jaunes donc qui étaient là. Alors il y a eu aussi d'autres textes qui ont été décidés, entre autres... un texte qui exige l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Ça, c'est super important au niveau de la solidarité. Ensuite, il y a le fait qu'il demande de retrouver notre pouvoir place aux assemblées citoyennes. Un petit texte, donc, sur des essais de démocratie directe. Il y a un autre texte sur la convergence écologique. Et puis, il y a un dernier texte qui est intéressant aussi. C'est l'appel à l'action et la mobilisation pour la période des élections européennes. Alors, je pense que les 4 ou 5 lignes que je vais vous lire sont significatives. Je vous cite donc cet appel. Nous avons par principe fondateur l'autonomie des groupes de gilets jaunes et des individus en général. C'est pourquoi nous faisons le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de listes politiques au nom des Gilets jaunes. Voilà, c'était pour vous situer un petit peu ce qui a été décidé à Saint-Nazaire ce week-end. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous ces textes sur le site Reporter ou sur Mediapost, mais enfin, sur Mediapart. Mais par contre, sur Reporter, c'est au moins d'accès libre. Ensuite, pour se quitter, bah oui, j'ai quand même quelque chose à vous dire. La semaine dernière, on vous avait parlé d'un procès qui avait lieu par rapport à un cordiste qui avait été tué dans un silo. Le procès était renvoyé donc au 4 octobre, vendredi 4 octobre à 9h. Alors, faut rappeler que le 21 juin 2017, le technicien cordiste Quentin, un breton donc, avait trouvé la mort dans un silo de la distillerie Cristanol à Bazancourt, donc à côté de Reims, alors qu'il intervenait pour le compte de la société ETH. Actuellement, seul ETH a été inculpé. Par contre, le donneur d'ordre, c'est-à-dire Cristanol, qui est en fait une filiale de Cristal Union, dont on vous a parlé déjà ici, n'est pas du tout inculpé pour l'instant. Par choix, tout simplement, de la magistrature, par choix, tout simplement, du procureur.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! 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 Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, à Local, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.